Bienvenue dans cette émission 14 mars 2024, 14 mars 2026. Cela fait 2 ans depuis que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait présidé la cérémonie de signature du contrat minier renégocié avec le groupement des entreprises chinoises GEC, augmentant l'investissement dans les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars américains. 2 ans après, le gouvernement congolais procède au contrôle de l'exécution du programme de coopération sino-congolais sur la période 2008-2024. Son agence de pilotage et de coordination et de suivi des conventions de collaboration APC-SC a lancé le 6 mars l'audit technique et financier de ces vastes projets. Devant la presse, le directeur général de cette structure de l'État, Freddy Yodi Shembo, a indiqué que cette initiative vise à renforcer la transparence, la crédibilité et la redevabilité dans la mise en œuvre du partenariat entre les parties chinoises et congolaises. Quelle évaluation peut-on faire de la mise en œuvre du contrat sino-congolais 2 ans après sa renégociation? Et comment analyser le lancement de l'audit technique et financier de ces contrats sur la période 2008-2024? C'est à ces questions qu'on va tenter, n'est-ce pas, de répondre ici. Et nous recevons dans cette émission, ici au studio, M. Patrick Lumumba. Il est directeur en charge des opérations de l'agence de pilotage et de coordination et de suivi de conventions de collaboration APC-SC. Bonsoir, Patrick Lumumba.
Bonsoir, cher journaliste Lee.
En ligne, Jean-Claude Mputu, il est porte-parole de la coalition des ONG Le Congo n'est pas à vendre, CENPAV en sigle. Bonsoir Jean-Claude Mputu.
Bonsoir messieurs les journalistes, bonsoir monsieur Lumumba.
Et aussi en ligne, Lemsi Kamwanya, il est expert en économie et finance et il est également expert en transport multimodal. Bonsoir Lemsi Kamwanya.
Bonsoir Guy Matré.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous le disions, le gouvernement passe au scanner l'exécution du programme de coopération sino-congolais sur la période 2008-2024. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration APC-SC a lancé vendredi l'audit technique et financier de ces vastes projets. En quoi consiste cette initiative de l'État congolais? Tentative de réponse dans ce reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Cet audit tire son fondement de l'avenant 5, article 1er, alinéa 13, signé en 2023 dans le cadre de la renégociation du programme sino-congolais, explique le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration. Devant la presse, Freddy Yodi Shembo indique que cette initiative vise à renforcer la transparence, la crédibilité et la redevabilité dans la mise en œuvre du partenariat entre les parties chinoises et congolaises. Il souligne que cet exercice doit couvrir l'ensemble des dimensions structurantes du programme sino-congolais, notamment les volets miniers, financiers, fiscaux et contractuels. À travers cet audit, le gouvernement congolais entend déterminer les niveaux réels d'exécution du programme, précise Freddy Yodi Shembo.
Un tel exercice constitue un instrument essentiel de bonne gouvernance. Il permettra en effet de dresser une photographie claire et objective du niveau réel d'exécution du programme depuis son lancement jusqu'à ce jour.
Pour rappel, dans ses partenariats signés en 2008, les consortiums chinois s'étaient engagés à financer et construire en RDC des infrastructures de base, notamment routes, hôpitaux, écoles, en échange des droits d'exploitation sur certaines ressources minières congolaises, notamment les cuivres et les cobalts.
Merci à vous Blaise Ndongala Mayanda. Patrick Lumumba, vous êtes directeur en charge des opérations de l'agence des pilotages, des coordinations et des suivis, des conventions, des collaborations APC-SC en sigle. Et on va commencer par une évaluation à mi-parcours. Hein. Quelle évaluation peut-on faire de la mise en œuvre du contrat sino-congolais 2 ans après sa renégociation?
Merci beaucoup, Monsieur Guy, pour la parole et l'opportunité que vous accordez d'être ici, Radio Capi, et nous saluons le travail qui est abattu à ce lieu. Mais en même temps, nous saluons nos auditeurs de partout, et ensemble, je salue en passant Monsieur Lems et Monsieur Jean-Claude qui sont avec nous dans ce plateau. Merci pour l'opportunité que vous nous accordez, et au nom de Monsieur le Directeur Général, qui devrait essentiellement être ici, mais pour des raisons de mission de service qui n'est pas avec nous, mais nous allons quand même vous évertuer, de vous donner quand même quelques éléments de satisfaction. En fait, la première de toutes choses, après les négociations de ce programme sino-congolais, essentiellement qui a abouti à l'avenant numéro 5, il y a quand même une lecture nuancée, mais à la fois critique et pragmatique que nous devons faire.
Il y a des avancées. Vous parlez de la négociation ou de la renégociation?
La renégociation du programme sino-congolais. Voilà. À ce point-là, je me dis qu'il y a quand même des avancées que nous devons noter. Parce qu'au moins, ça nous a permis le rééquilibrage et la population congolaise et tout le monde pouvait quand même s'en réjouir à la suite de l'action qui a été enclenchée par l'inspection générale des finances.
Avancer sur quel plan?
Oui, bon, depuis que le programme a commencé en 2008 jusqu'en 2012, vous savez très bien que je ne sais pas si la population congolaise peut s'en souvenir à partir de 2012 quel est le dernier projet qui a été lancé. Mais après les renégociations et le lancement de ce programme depuis 2023, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont en train d'être exécutés et ce qui fait quand même l'objet de
cette. Vous avez cité quelques-uns ?
Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vais donner par exemple certains projets liés essentiellement par exemple à Tchela Singini dans le Congo central.
Où ça tout le monde peut la route.
Oui, ça c'est la route essentiellement. C'est la route. Vous avez par exemple le projet Kalamambouji qui est quasiment en train d'évoluer avec beaucoup plus de vitesse. Et vous avez le projet de la route qui lie Ngouba sur la RN1. Vous avez par exemple le ROCAD. Le route de contournement de Kinshasa
oui.
Où tout le monde peut aller et voir les évolutions.
Ça, c'est physique,
pour le citer, c'est physique. Voilà. Donc, ce sont des éléments palpables pour montrer quand même la dynamique qui a été enclenchée à l'avènement de M. le directeur général Freddy Odichiemo.
Et donc,
nous saluons en passant.
Des ans après leur renégociation, ces contrats ont produit des effets sur le terrain.
Effectivement, il faut le reconnaître. Qu'il y a des effets sur le terrain. Et c'est vérifiable.
Merci. Jean-Claude Poutou, porte-parole de la coalition des ONG Le Congo n'est pas à vendre, CENPAV en sigle. On sait que votre structure fait le monitoring, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ces contrats. Et qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain en termes de réalisation des ouvrages des ans après la renégociation de ces contrats?
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. La première chose à dire, effectivement, il y a eu des travaux qui ont commencé. On voit sur les terrains, mais je pense que c'est une mauvaise manière de la renégociation quand c'est basant sur les travaux qu'on voit sur les terrains. Pourquoi je l'ai dit? Parce que...
Vous avez dit que c'est une mauvaise manière de faire quoi?
On peut commencer des travaux.
C'est une mauvaise manière de faire quoi? On n'a pas. On
mais ce qui est fondamental, c'est que le peuple congolais doit savoir si l'exploitation a servi les intérêts du Congo. Est-ce qu'il y a eu rééquilibrage? Est-ce que la partie chinoise et la partie congolaise, à part, ont les mêmes gains dans ces contrats? C'est là où CENPAV intervient pour dire que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la renégociation n'a pas réussi à combler les trous. Je donne un exemple. Le montant de base du contrat estime que quand le prix du cobalt atteint 8 000 $, la partie chinoise doit verser 324 millions par an par rapport à si le prix du cobalt évolue autour de 8 000 $. Si le prix baisse au-delà de 7 000 $, les deux parties doivent se retrouver pour réévaluer la contribution de la partie chinoise. Mais au-delà de 8 000 $, les Chinois continuent à verser la même somme, 324 000. Or, quand on voit sur les trois dernières années ce qui s'est passé, c'est que le cuivre a été toujours au-delà de 8 000 $. Et quand nous faisons une estimation sur base de ces prix, en 3 ans, le Congo a perdu plus de 300 millions de dollars malgré la renégociation. Donc, il y a un problème de fonds qui doit être réglé au-delà de quelques réalisations qu'on voit sur le terrain. La deuxième question, c'est que jusqu'à présent, on est incapable de nous dire combien les Chinois produisent et qu'est-ce qu'ils gagnent. Ça, ce sont des questions essentielles que nous devons savoir pour apprécier si la renégociation a servi ou non l'intérêt du peuple congolais. C'est un calcul simple. Quand un boulanger produit 5000 pains, le gain est plus faible que quand il produit 10 000 pains. Le problème, c'est qu'avec les contrats chinois, on ne nous dit pas combien de pains les Chinois ont fait, mais on nous dit que c'est le prix qu'ils doivent nous payer, peu importe la quantité, quand la quantité est supérieure. Mais quand la quantité est inférieure, on renégocie les prix à la baisse. Ce qui n'est pas normal, c'est pourquoi le Congo n'est pas d'avance, demande à ce que cet audit fasse la clarté et réponde à toutes ces questions, qu'on sache combien les Chinois ont produit, pour nous permettre de faire une évaluation claire et enfin de permettre une négociation qui soit à la hauteur de l'intérêt du peuple congolais et du bénéfice du peuple autour de ces projets infrastructures contre nos minéraux.
Merci, merci, merci beaucoup. L'un de ces Kamwanya, vous êtes expert en économie et finances, vous êtes également expert en transport multimodal. Vous également, quelle évaluation vous pouvez faire de la mise en œuvre du contrat sino-congolais deux ans après sa renégociation?
Oui, oui, merci pour la question. Je salue aussi les deux co-débatteurs, M. Lumumba et M. Jean-Claude Boutou. La première des choses, c'est saluer l'initiative, parce que nous avons signé un contrat, il ne faut pas les laisser continuer comme ça à s'exécuter sans que, de temps à autre, on fasse le point sur le respect des engagements de toutes les deux parties. Aujourd'hui, procéder à l'audit technique et financier, c'est un exercice qu'il faut saluer et on espère que cela pourra intervenir chaque année. Alors, pour répondre à votre préoccupation, je crois qu'il y a une nuance qu'il faut apporter dans nos réponses. Est-ce que on n'est pas en train de renégocier les contrats de base ou après l'avenant, parce que là, les termes sont déjà fixés. Ce n'est pas chaque année qu'on doit renégocier les contrats. Mais là, nous sommes en train plutôt de voir les niveaux d'exécution physique et financière de ces contrats. Alors, peut-être M. Lumumba, comme il a dit, qu'il remplace son DG qui n'est pas là, pour bien faire cette évaluation, lorsque le cinquième avenant a été signé, il avait été entendu qu'on devrait commencer à verser à la RDC 324 millions de dollars. Donc, deux ans après, cela suppose qu'on devrait verser à la RDC 650 millions de dollars, parce que le cours de cuivre, depuis cette signature, il est au-delà de 8 000 dollars. Donc, il n'y a aucune raison que les Chinois ne versent pas les 324 millions chaque année. Pour les deux ans, on approche les 650 millions de dollars. Déjà, financièrement, est-ce qu'on peut nous rassurer que la partie chinoise a versé les 650 millions de dollars? Ça, c'est ça l'évaluation financière. Ça, c'est ça l'audit financier. Et des deux, si nous allons maintenant du côté technique, et c'est là que nous avons besoin de transparence. Quels sont les projets qui devraient être réalisés chaque année? Ou pendant ces deux ans, quels sont les projets qui devraient être réalisés pour arriver à consommer les 650 millions? Ici, on vient de nous citer trois projets. Si je prends les trois projets, quel est le coût total de ces projets? Est-ce qu'on arrive à consommer les 650 millions? Parce que nous risquons de nous retrouver dans ce qui avait été condamné avant ou critiqué avant en disant, après autant d'années, on a consommé que 822 millions. Et les Chinois, on va encore se retrouver 5 ans ou 10 ans après en nous rendant compte que le niveau d'exécution financière est faible parce que sur le terrain, les travaux n'ont pas avancé. Et ici, je tiens à signaler que lorsqu'on a signé l'avenant numéro 5, le 14 mars 2024, il était entendu qu'on devrait construire 3500 km de route. Il y avait des chemins de fer, il y avait des hôpitaux et des centres de santé. Lesquels ont été programmés, lesquels ont été réalisés. C'est ça l'audit technique. Merci. Et sur les 650 millions qu'on devrait avoir les deux ans, quel est le montant qui est déjà versé par la partie chinoise? Ça, c'est l'audit financier. Bon, maintenant, au niveau toujours financier, Les cours de cuivre aujourd'hui se situent autour de 12 800, 13 000 dollars. Et est-ce que les surplus qui devraient être versés à la RDC, est-ce que c'est versé ou pas? Ce sont autant de questions sur lesquelles on aimerait avoir des précisions au niveau de l'agence qui est en train d'assurer le suivi de l'exécution de ces contrats.
Merci.
Je peux d'abord m'arrêter à ce niveau-là.
Merci. On revient maintenant à la question d'audit technique et financier. Monsieur Patrick Lumumba, qu'est-ce qui motive le lancement de cet audit technique et financier de ce contrat sous la période 2008-2024?
Merci beaucoup, Monsieur Guy. Il y a une chose que j'aimerais quand même qu'on puisse retenir, et merci pour les observations relevées par mes collaborateurs, et qui d'ailleurs ont reconnu, tous deux, que l'initiative portée par la PCC est une initiative noble qui vient quand même conforter la position de tout ce qui est relayé par la société civile et les experts, mais aussi qui prend en compte les dimensions exprimées et affichées par la partie chinoise. Parce que, figurez-vous, et je dois le préciser, que la PCC, donc agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration, est c'est une agence qui a été créée par la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous saluons, pour sa vision claire. Et cette agence doit constituer en fait l'interface entre le gouvernement de la RDC et le partenaire privé.
Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui motive
J'en arrive parce que j'aimerais quand même adopter une démarche pédagogique pour que ceux qui nous suivent sachent ce quoi en fait le programme sino-congolais et quels ont été les éléments de motivation. Ouais. Mais qu'à cela ne tienne, pour rencontrer votre préoccupation très rapidement, j'ai souligné ici que le projet que nous avons épinglé, il y en a toute une panoplie. Si ils ont besoin qu'on puisse aller parler par palier, c'est notre loisir. Nous pourrions.
Non, ma question, c'est qu'est-ce qui motive le lancement de cette audit?
Oui, mais le lancement, je l'ai dit tout à l'entame de mes propos, que la lecture que nous faisons de renégociation du programme sino-congolais porte à la fois une lecture nuancée, qui nécessite des critiques, mais à la fois le pragmatisme que cela exige. Et nous avons dit que nous n'avons pas tout obtenu. Après les renégociations de ce programme, il y a quand même des choses que nous avons obtenues. Le premier pas ne vous mène pas nullement pas où vous allez, mais ne vous laisse pas non plus là où vous étiez. C'est-à-dire qu'il y a quand même certains acquis qu'il faut reconnaître, parce que nous partons d'une estimation qui a été faite de 1,5 milliard, et nous allons vers 7 milliards. Et de ces 7 milliards, nous avons quand même une tranche de 5,5 milliards qui a été séquencé sur le 324 millions par an. Et quand vous faites le calcul, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même ces éléments-là. Ce n'est pas rien du tout quand même. Mais cet argent également a été affecté par des tranches. Pourquoi? Parce que nous étions dans la tranche qui était restée de 150 millions pour la réalisation de certains projets entre 2022 et 2024. Mais il y a ici les tranches qui s'ajoutent sur la partie de 2025 à la tranche de 324 millions. Donc quand même, il y a des avancées. Mais ce qui nous motive maintenant, c'est de se dire qu'il faudrait que cette partie financière puisse rencontrer quand même les préoccupations de la partie congolaise liées à la mise en œuvre des infrastructures. C'est là qu'il y a quand même un déséquilibre qu'il faudrait quand même que l'on comprenne sur les éléments de la production et sur l'impact que cela crée dans la réalisation des infrastructures.
Est-ce que vous vous êtes concerté avec les partenaires chinois avant d'initier cet audit?
Ah bon, c'est une très bonne question. Il faudrait savoir que les audits ont été prévus dans l'avenant 5. Et l'avenant 5 constitue la résultante des attentes consenties entre les deux parties. Ce qui fait que les résultats de ces audits vont essentiellement conforter le parti. Pourquoi? Parce qu'au moins, il y aura un élément de transparence et de la bonne gouvernance qui sera prôné. Et ce sont des acquis qui vont nous permettre de pouvoir voir qui fait quoi, où, comment. Et de quelle manière?
Et en quoi ce que vous faites diffère de ce qui a été fait à l'époque par l'inspection générale des finances et qui a abouti, n'est-ce pas, à la renégociation de ces contrats? C'est quoi
Absolument,
la différence?
C'est une question très centrale. Les négociations ont été faites sur, je donne par exemple, sur le permis d'exploitation que Sicomines a acquis pour dans le cadre de ce programme. Bon, il n'y avait que de réserves qui étaient estimées. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez le terme et le clause de la convention de collaboration, c'était parti sur des réserves estimées. Mais lorsque nous arrivons à la table de négociation, je ne pense pas que vous et moi, et tous ceux qui nous suivent, ont eu quand même une certitude de la valeur estimée, la valeur certifiée de ressources qui ont été mises à la disposition des six communes dans le permis d'exploitation. Alors, les audits viennent effectivement pour nous donner cette possibilité de connaître qu'est-ce que le Congo a mis en place vis-à-vis de ses partenaires chinois pour la réalisation de ces programmes. Ce qui fait que c'est déjà un élément de taille de différence. Parce qu'ici, nous allons sur de valeurs certifiées. Alors que dans les initiatives qui ont commencé depuis la mise en œuvre du programme sino-congolais jusqu'à la renégociation ayant abouti à l'avenant 5, nous étions simplement sur des estimations. Ça, c'est un premier pas de taille qu'il faudrait quand même mettre à l'actif de l'initiative du gouvernement congolais et l'action que porte la PCC par son directeur général, Frédéric Odichemo.
Déjà, nous n'avons pas assez d'éléments, assez de données, n'est-ce pas, fiables sur notre patrimoine minéral. Vous pensez que les choses vont bien évoluer alors qu'il y a cet aspect qui peut poser problème?
Effectivement, parce que les concours de l'expertise des consultants, c'est quand même un élément de taille. Pourquoi? Parce que là, nous n'allons pas supputer, encore une fois de plus, nous irons sur de valeurs sûres. Et pourquoi? Parce qu'il y a une compétence qui a été éprouvée à travers les consultants qui vont procéder à cet audit.
Jean-Claude Poutou, comment vous réagissez? Je sais que vous avez déjà commencé à réagir, n'est-ce pas, par rapport à cette initiative. Vous continuez dans votre analyse. Comment vous réagissez au lancement de cet audit technique et financier de ces contrats sur la période 2008-2024?
Alors, pour nous, lancer cet audit est quelque chose d'intéressant. Ça a été toujours une demande du Congo n'est pas à vendre et d'ailleurs de toute la société civile congolaise. Nous aurions aimé que cet audit soit fait avant la renégociation du contrat, avant l'avenant 5. Ça, c'est que la bonne gouvernance et la gestion d'un père de famille auraient voulu, avant de négocier, auditons pour connaître où se trouvent les problèmes, où sont les failles, quelles sont les difficultés. Ce travail n'a pas été fait, on est allé renégocier. Heureusement que dans cette renégociation, on a quand même inclus un audit quelques années plus tard. Maintenant, la question n'est pas simplement d'avoir prévu un audit. La question est, qu'est-ce que va faire cet audit? L'audit, pour nous, la première chose est que cet audit concerne pas uniquement l'évaluation du contrat, mais l'ensemble du contrat depuis l'origine jusqu'à maintenant, pour voir exactement les gains et les bénéfices des parties prenantes. En termes d'infrastructure, en termes de quantité produite, en termes de gains pris par les Chinois, en termes d'investissement, en termes de dommages sur l'environnement, en termes de victimes collatérales, l'ensemble de ces processus, de ces éléments, doit être audité. La deuxième chose, l'audit doit être rendu public. Le gouvernement doit s'engager à communiquer au peuple les résultats de cet audit qui les concerne. Parce que nous devons savoir ce qui s'est passé avec ces contrats et comment le gouvernement compte rectifier les tirs pour un partenariat véritablement gagnant-gagnant. Troisième chose, il faut que les responsabilités soient établies. Si l'audit montre qu'il y a eu des fautes, qu'il y a eu des détournements, qu'il y a eu des gains illégaux, les personnes responsables doivent être poursuivies et rendre des comptes à l'État. Et quatrième élément essentiel, il faut que dans ce travail d'audit, que la société civile soit consultée et donne son avis. Et enfin, un dernier élément, pour éviter des soupçons de corruption, nous savons que lors des dernières renégociations, c'est la partie chinoise qui avait pris en charge les frais des négociateurs congolais. Inadmissible, comme si l'État n'avait pas les moyens de payer ses serviteurs.
On a parlé
donc
de combien?
Il est temps que tout cela soit corrigé pour qu'à l'avenir,
oui, j'ai demandé
les trésors publics prennent en charge les frais de l'audit et des participants congolais pour que les choses se passent dans l'indépendance et sans soupçon de corruption de la partie chinoise.
Jean-Claude Boutou, est-ce que vous comprenez pourquoi ces enquêtes s'arrêtent en 2024?
sans doute pour des raisons politiques. Nous n'avons pas les pommeaux de l'histoire. Nous constatons juste qu'IGF a mis en place, a mis publiquement sur des faits d'irrégularité, et qu'on n'a poursuivi personne. On s'est juste contacté de renégocier l'avenant 5. Et même cet avenant 5 contient encore des failles. J'espère que cette fois-ci, après l'audit, on aura une vraie renégociation avec une indépendance totale et des responsabilités établies et la redevabilité et la poursuite pour les personnes qui seront rendues coupables des actes illégaux dans la mise en œuvre de ces contrats.
Merci. Lems Kamonia, vous également, comment vous analysez le lancement de l'audit technique et financier de ces contrats sur la période 2008-2024?
Oui, merci Guima. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir des précisions. Parce que la convention de collaboration lie l'État congolais avec les groupements d'entreprises chinoises, avec la partie chinoise, s'il faut l'appeler comme ça. Et cette convention de collaboration a été renégociée en 2024. Bon, et on a signé l'avenant numéro 5 le 14 mars 2024. L'agence qui est là est chargée du pilotage, coordination, suivi de cette convention de collaboration. Je ne sais pas si cet audit technique et financier intègre dans son périmètre les réexamens de toutes les clauses que contiennent cette convention de collaboration, ou si cette agence est là juste pour suivre l'exécution des accords conclus entre le gouvernement et la partie et le groupement des entreprises chinoises. Ça, c'est très important pour que cela soit vérifié. Parce que si vous suivez M. Patrick Lumumba, quand il est intervenu, il a commencé par dire « Voici les projets qui se réalisent déjà ». Ça, ça rentre dans le cadre de leur mission. Coordonner, piloter et suivre l'exécution de la convention de collaboration. Est-ce que leur audit porte sur la convention de collaboration? Est-ce que cet audit peut amener à un autre avenant sur ce contrat, sur cette convention de collaboration? C'est très important que ces détails soient donnés. Parce que moi, je pensais que cette agence, par rapport à son objet social, par rapport à la limite de sa mission, elle est là juste pour examiner les niveaux d'exécution physique et d'exécution financière de la convention de collaboration. Sinon, on rentrerait encore à une renégociation de l'accord. Parce que si on rouvre encore la période de 2008-2024, il y a beaucoup à dire. Même ce qui a été signé au niveau de l'avenant 5, je vous dis, ça sera revu. Oui, parce que, comme lui-même a essayé de le dire, en 2008, quand on a signé cette convention de collaboration, Sicomi n'existait pas en tant qu'entreprise. Sicomi ne produisait pas. Nous étions dans des spéculations, dans des suppositions. La première production commerciale de Sicomi est arrivée en 2015. Et les cours, quand on regarde les cours en 2008 avec la crise mondiale, avec la crise financière qui avait en 2008, les cours étaient tombés en dessous même de 4 000. Mais aujourd'hui, on est autour de 13 000. C'est plus de 3 fois plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les suppositions. Les réserves sont connues, c'est 250 millions de tonnes de minerais qui sont là dans ces gisements qui sont dans ces entreprises. Et on connaît que les volumes de production en métal, en métaux de cuivre, de cobalt, c'est autour de 8,50 millions de tonnes. C'est, aujourd'hui, nous avons des éléments concrets qui peuvent nous permettre d'évaluer exactement quels vont ces partenariats et que représente les 32% de la partie congolaise et en termes de gains. Et là, ça va changer beaucoup de choses.
Merci.
Alors, c'est pourquoi il faut qu'ils nous précisent, pour qu'on comprenne, est-ce que leur audit, là, c'est rouvrir encore tous les termes qui sont contenus dans la convention de collaboration, ou ils sont limités sur la partie de l'exécution physique et financière du contrat.
Merci. Patrick Lumumba, vous pouvez répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations soulevées par Lems Kamonia ainsi que Jean-Claude Mpoutou.
Merci beaucoup. Je pense que je salue d'abord cette grande contribution parce que je me sens très aisé parce qu'au moins mes amis Lems et Jean-Claude comprennent effectivement le pourquoi est l'objectif de ces audits. Et je suis très conforté parce que cette prise de position nous fait comprendre ensuite notre responsabilité et que nous voulions d'ailleurs faire avec beaucoup d'aisance. Quelque part, l'OMS avait parlé de prix de cuivre sur 8000 et tout le reste, c'est pratiquement l'article premier.
Les cours qui ont monté.
Oui, effectivement, c'est l'article premier, alinéa 3 de l'avenant 5. Et quelque part, M. Lems, si vous voyez, à partir de l'alinéa 3, vous allez vous rendre compte qu'il y a une part de clause qui dit clairement que lorsqu'il y a le cours de cuivre qui augmente au-delà de 12 000, nous sommes sur une clause de 50%. Et de cette clause de 50%, il y aura un chiffre additionnel à financer à la part, en faveur des infrastructures sur le terme de 30%, la partie congolaise, et 20% de la partie chinoise. Deuxième chose que je voudrais préciser, et votre préoccupation est d'ailleurs très légitime, c'est que ces audits portent sur le programme sino-congolais. C'est-à-dire, quand on parle du programme sino-congolais, la base juridique, c'est pratiquement la convention de collaboration. C'est là qu'il y a la clause contractuelle. De 2008, effectivement. Là, on ne peut pas s'en passer parce que tous les audits portent sur cela. Et deuxième précision, c'est que les audits qui sont menés portent sur l'ensemble de tous les aspects, que ce soit au niveau de l'exploitation des ressources minières, que ce soit sur les études à impact environnemental et sociaux, que ce soit sur la partie juridique, que ce soit également sur tout ce qui est lié aux éléments de commercialisation. Donc nous sommes sur tout l'ensemble de ce que prévoit cette convention de collaboration.
Et ça,
là,
ça
je peux vous comporter, nous allons sur une période de 8 à 10 mois pour terminer ces audits. Voilà. Donc c'est une question de patience parce que tous ces aspects qui ont été épinglés sont pris en compte effectivement dans le cadre de ces audits, y compris les infrastructures, parce qu'il faudrait qu'une logique séquentielle suive ce qui a été produit et commercialisé dans le partage des dividendes. Qu'est-ce que cela a eu comme impact positif dans la réalisation des infrastructures s'il y a un déséquilibre? Effectivement, après ces audits, nous le verrons effectivement pour pouvoir contenter toutes les parties et revoir également certaines dispositions qui énervent les attentes de parties. Parce que l'objectif ici, c'est qu'il y ait la bonne gouvernance, qu'il y ait la transparence et que le bénéfice généré dans ces deals puisse être dans l'option gagnant-gagnant.
Et donc on espère qu'à l'issue, n'est-ce pas, de ces enquêtes, les conclusions seront rendues publiques.
En tout cas, l'APCC porte ce projet et l'APCC conduit les audits et nous avons, en tant qu'établissement public, nous avons une tutelle. C'est la première ministre qui est notre tutelle. Les conclusions de ces audits seront mises à la disposition de la tutelle et qui prendront toutes les dispositions nécessaires de voir ce qu'elle disposerait pour le faire.
Voilà, monsieur...
Mais permettez, je voudrais aussi ajouter pour apaiser également monsieur Jean-Claude que la société civile n'est pas en reste. La société civile accompagne ces initiatives et nous ne pouvons pas penser de mener ces audits sans pouvoir associer la société civile. Et il y a toujours un cadre de concertation et de dialogue pour récolter les avis et accompagner la bonne réalisation de ces audits.
Jean-Claude Poutou, vous allez réagir à la réflexion des auditeurs qui sont en train d'appeler, n'est-ce pas, pour donner leur point de vue par rapport à cette thématique. Là, c'est l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo. Vous allez réagir à sa réflexion, Jean-Claude Poutou. C'est Jacques Befunga, voilà.
Je m'appelle Jacques Befunga Malumalu depuis Kisangani, province de la Tchopo. Deux ans après la renégociation du contrat sino-congolais, les constats sur le terrain restent très préoccupants. On nous avait annoncé une augmentation des investissements à 7 milliards de dollars pour les infrastructures, mais la population ne voit pas d'amélioration concrète. Les routes restent dégradées, les conditions de vie ne changent pas vraiment. Cela pose un problème sérieux de crédibilité et d'efficacité dans la gestion de ces partenariats. où est passé cet argent, quels projets ont réellement été réalisés et achevés. Concernant l'audit lancé par le gouvernement, c'est une bonne initiative, mais elle arrive tard. La vraie question est, cet audit sera-t-il indépendant, transparent et suivi des sanctions si des irrégularités sont constatées? Le peuple congolais entend des résultats, pas seulement des annonces. Merci.
Jean-Claude, vous pouvez réagir à sa réflexion, mais aussi il y a des questions, je crois, qui doivent
être adressées
à M. Lumumba. Allez-y.
Merci beaucoup, M. Malumalu. Je pense que vous avez raison en exprimant ces besoins. Et c'est la même question, je pense, que se pose l'ensemble des Congolais. Les 7 milliards, ils sont où? Combien a été utilisé? Et dans quoi? On peut nous citer quelques projets, mais ces projets restent minimes. Et j'espère que l'audit répondra à ces questions. C'est pourquoi il est essentiel que l'audit soit rendu public. J'espère et je pense que la primature, puisqu'on nous dit que c'est elle l'organe de tutelle, rendra cet audit public. Sinon, le peuple ne comprendra pas. Le deuxième problème, c'est celui des responsabilités. Est-ce qu'on a besoin d'attendre l'audit pour demander des comptes aux personnes qui avaient été citées dans les rapports IGF, qui se sont rendus coupables de violations? Les rapports IGF, c'est clair, il est là. Pour montrer la bonne volonté, l'État doit commencer par ce qu'on sait déjà. La redevabilité est essentielle. Si personne n'est rendu redevable, si personne ne rend des comptes à l'État, ça veut dire que c'est un signal clair pour que la corruption, les détournements continuent. Donc je ne peux qu'être d'accord avec M. Malumalu. Nous avons besoin de la redevabilité, de la transparence et des résultats concrets. Le gouvernement ne peut pas se cacher chaque fois derrière. On attend, il y a des œuvres qui continuent. On veut les résultats clairs, on veut voir l'impact. Et le peuple congolais juge en fonction des réalités et de l'impact qui se voit sur le terrain. La redevabilité est essentielle et l'impunité doit cesser.
Merci. Lebs Kamanya, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'autre auditeur, n'est-ce pas, qui nous appelle toujours depuis Kisangani dans la Tchopo, c'est Blaise Saïdi.
J'appelle la partie de Kisangani, Blaise Saïd Atou. Déjà après sa réorganisation, le contrat sino-congolais reste un partenariat stratégique mais encore déséquilibré, dont les retombées concrètes tardent à se matérialiser. Le lancement de l'audit 2008-2024 constitue une opportunité décisive pour rétablir la vérité, corriger les injustices et refonder ce partenariat sur des bases plus équitables. Il me semble que cet audit est une chance historique pour la RDC, mais il ne servira à rien s'il ne débouche pas sur des décisions courageuses. Le véritable enjeu n'est pas seulement de connaître la vérité, mais d'avoir une volonté politique de défendre les intérêts du pays, même face à des partenaires puissants. Pourquoi lancer un audit maintenant après plus de 15 ans d'exécution? Cet audit sera-t-il réellement indépendant et crédible? Faut-il renégocier encore une fois les contrats sino-congolais?
Lems Kamanga.
Oui, merci beaucoup. Je crois que cet auditeur par la fin, il répond à la préoccupation que j'ai parce qu'il y a 2 ans que nous avons renégocié ce contrat. Nous avons signé un avenant numéro 5. Alors, 2 ans dans le cadre de la mise en œuvre de cet avenant, nous nous disons non, essayons encore de revoir la partie 2008-2024. Pour moi, ça pose un problème de cohérence et d'engagement que nous avons vis-à-vis de nos partenaires. Mais alors, le plus grand problème qui est là, moi je pense, nous devons donner des recommandations au gouvernement. C'est comme je l'ai dit, même si nous prenons la référence numéro 5 qui a été signée, c'est une bonne avancée, où on s'est dit chaque année on nous donne 324 millions de dollars. Les 2 dernières années, on serait déjà à 648 millions de dollars. Imaginez-vous si on injecte 648 millions de dollars dans le cadre des travaux d'infrastructure dans ces pays. On aurait des changements notables. Est-ce que les entreprises chinoises, CREC et Sinohydro, qui exécutent sur terrain ces travaux, ont-ils la capacité de réaliser les travaux jusqu'à concurrence de ces montants? C'est là que le problème se pose. Moi, ma crainte est que nous allons voir, ils vont vous dire que okay, nous travaillons, oh, il y a des restes, comme M. Patrick Lumumba a expliqué, bon, il y avait un montant qui était resté, il y avait un prédicat, parce que le niveau des travaux n'avance pas. Et ils ne sont pas peut-être à mesure de consommer les 324 millions chaque année. Quelles sont les dispositions qui sont prises? Combien d'entreprises sont engagées?
quels sont les projets qui se mettent en place pour qu'on se rassure que les 324 millions sont décaissés et ils se traduisent en termes d'infrastructures. C'est là que la population congolaise doit se dire, effectivement, ce contrat nous est profitable. Mais si on les laisse fonctionner tel que ça se passe là, et se mettre à table et négocier, on va aboutir à des rapports, à des conclusions, et ensuite on va avancer. 10 ans vont se passer, on verra que même les 7 milliards là, pour les atteindre, ça va être encore difficile. Donc moi, je plaide plus pour qu'on mette en place des mécanismes, la multiplication d'entreprises qui doivent réaliser des travaux réels sur terrain, pour qu'on accroisse la capacité d'absorption de ces 324 millions qui sont mis à disposition de la RDC chaque année. Et que la partie chinoise nous donne des évidences que ce montant est mis à la disposition chaque année pour que cela soit traduit en termes de travaux. Autrement, ça va être encore un énième rapport, ça va être, on a fini, on a fait l'audit, on a soumis, les gens vont se voir des réunions et la population ne verra pas grand-chose sur le terrain.
Merci, merci Patrick Lumumba. Vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis les Bazouélé, c'est M. Janvier Kasereka.
Janvier Kasereka depuis la province des Bazouélé. Je pense que le partenariat sino-congolais soutenu par Félix Tshisekedi représente une opportunité importante pour développer les infrastructures en RDC. Cependant, 2 ans après, les résultats doivent être clairement visibles et profitables à la population. L'audit lancé par l'État est une bonne initiative pour garantir la transparence et corriger les insuffisances. J'ai 3 questions. Quels sont les résultats concrets visibles du contrat sino-congolais 2 ans après sa négociation à termes d'infrastructures et de développement? 2e question. Le partenariat entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises est-il réellement équilibré et bénéfique pour les intérêts du pays? 3e. À quoi l'audit technique et financier lancé par l'APCCS peut-il améliorer la transparence et corriger les éventuelles failles du contrat?
Patrick Lumumba.
Merci beaucoup. Je salue l'intervention de chacun de ceux qui nous ont posé de questions ici. Ce sont des questions très légitimes. Vous allez m'excuser de ne peut-être pas citer le nom de tout le monde, mais j'ai noté les interventions de M. Blaise, de M. Janvier Kasereka, le dernier qui vient d'intervenir, et les deux premiers qui ont également posé leurs questions. Et toutes ces questions convergent vers 3 questions majeures. C'est que, 1, pourquoi ces audits maintenant? Alors que ça fait pour les uns, c'est plus de 15 ans, pour les autres, 2 ans après les renégociations. Et 2e préoccupation, c'est de savoir, mais où sont pratiquement les projets qui ont été réalisés? Et 3e, mais quelles en seraient les conclusions et la faisabilité de ces audits? Ce sont des questions très légitimes. Un chat échaudé craint toujours l'eau froide. Mais la vérité, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Fallait-il que nous puissions continuer dans cette spirale sans pour autant advenir aux résultats que nous voulons ou naviguer quasiment dans la nébuleuse pour ne pas avoir le projet d'infrastructure que nous désirons pour le développement économique de notre pays? C'est à cela toutes ces réflexions. Que nos auditeurs comprennent que la démarche de l'APCC est une démarche très salutaire. Très salutaire, pourquoi? Parce que au moins ça nous donne la chance de pouvoir comprendre qu'est-ce que la République démocratique du Congo a mis à la disposition de nos partenaires chinois. Ce ne sont pas de réserves qui seront estimées. Ça va être de réserves qui seront certifiées. Parce que n'oubliez pas, et je l'ai souligné ici, qu'on ne se limite pas seulement à l'audit technique et financier. Mais nous allons également dans la certification intégrale de ressources minérales qui ont été mises à la disposition de nos partenaires. Ce qui fait que ça nous donne une bonne occasion de pouvoir nouer toutes ces opportunités, qu'il s'agisse de la connaissance exacte sur le plan technique dans la mise en œuvre de l'usine. 2e chose, c'est que c'est vrai, on s'en plaindrait et c'est avec raison. La République démocratique du Congo, figurez-vous, c'est 4 fois la France. Lorsque je regarde, je me réfère aux statistiques de la BAD, par exemple, on vous dit que l'Afrique a besoin, pour la réalisation des infrastructures de base, l'Afrique a besoin de mobiliser entre 65 et 100 milliards de dollars par an. Et la République démocratique du Congo a besoin de mobiliser par an en moyenne 7 à 16 milliards de dollars pour la réalisation des infrastructures de base susceptibles de contribuer sensiblement à son développement économique. Ce qui fait que tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est rien. Et l'agence ne se limite pas seulement au programme sino-congolais. L'agence ouvre encore ses opportunités pour connecter le potentiel du besoin exprimé de la partie congolaise.
Ce qui semble inquiéter, c'est le fait que deux ans seulement après la renégociation de ces contrats, et on est en train de vouloir les auditer, c'est que en fait on sent le reflet d'un malaise, n'est-ce pas?
Bon, je l'ai souligné ici que il faudrait que l'exploitation, la transformation, la commercialisation de nos minerais, donc de la partie congolaise, puisse refléter quand même un équilibre par rapport à la réalisation des infrastructures. S'il y a un déséquilibre, ça ne marche pas quelque part. Il faudrait que nous puissions voir que le partenaire puisse gagner, parce que n'oubliez pas que c'est le fruit d'une négociation, c'est la concession entre le parti, que le partenaire bénéficie de ce qu'il a amené comme investissement, mais que la partie congolaise également puisse bénéficier des infrastructures qu'elle attend de ce programme. Mais permettez, M. Guy, de revenir un tout petit peu à la partie des projets qui ont été réalisés, mais que nos chers auditeurs retiennent une chose. Il y a toute une panoplie de projets qui sont réalisés. Bon, si, par exemple, vous êtes à Kisangani, certainement que vous n'allez voir que des projets qui sont réalisés dans la partie orientale. Mais celui qui est peut-être dans le Congo central va voir également ce qui est réalisé dans le Congo central. Je m'en vais en pensant qu'il y a très longtemps qu'on avait même des difficultés d'accès. Par exemple, je salue la mémoire de notre tout premier président, Joseph Kasabubu. Mais lorsque vous arrivez à partir de Materne jusqu'à Tchela Singini, les résultats sont palpables, vous avez le projet de ce genre. Vous avez aujourd'hui la route Kalamambouji qui est en train d'être reliée. Vous avez la partie Ngouba sur NE. Vous avez le Rocade, je l'ai cité ici. Vous avez plusieurs projets, la viabilisation de Lumumbaville, notre héros national que nous saluons pour sa mémoire et son combat. Vous avez le projet lié à la réhabilitation et la modernisation de l'aéroport de Oja.
Est-ce que c'est proportionnel aux fonds qui sont générés?
Bon, en fait, nous avons quand même des statistiques. Nous avons des statistiques sur le taux de décaissement et nous avons également des statistiques sur le taux physique de réalisation de projet. Donc, ce qui fait que nous sommes en train de suivre le cours et effectivement, croyez-nous que cet argent est consommé et est très bien suivi par l'agence de pilotage que M. le directeur général Freddy Chouimbou est en train de diriger.
Merci. Lems Kamanya, nous tendons vers la fin de l'émission, nous allons conclure. Hein. Comment la RDC devrait-elle procéder chaque fois qu'elle devra se retrouver devant une situation où elle doit conclure des conventions avec ses partenaires pour ne plus vivre de ce que nous vivons aujourd'hui?
Oui, merci. C'est une question qui est pertinente. Dans toute négociation, chaque partie doit d'abord savoir qu'est-ce qu'elle apporte sur la table et qu'est-ce qu'elle attend à recevoir de l'autre partie. Ça, c'est le principe de base de chaque négociation. S'agissant des contrats miniers, je crois que le plus important devrait savoir quelles sont les réserves estimées et certifiées des gisements que nous voulons mettre dans les partenariats. On dégage un court moyen. On regarde qu'est-ce que nous devons gagner et quel est l'apport de l'autre partie. Et à ce moment-là, nous savons dans quoi nous nous engageons. Alors, pour ce type de contrat où vous avez les dividendes qui proviennent d'une entreprise minière sont directement préaffectés pour développer les infrastructures, l'élément le plus important, c'est de savoir la capacité technique des partenaires qui sont engagés à consommer les fonds disponibles.
Merci.
Parce que les fonds peuvent être disponibles, mais si le partenaire n'a pas la capacité, ça risque des problèmes. Merci. Tout comme aussi, c'est rassurer que les partenaires avec qui nous avons signé aient de bonne volonté pour que chaque année, qu'ils libèrent la totalité de ces engagements et non pas continuer à les garder.
Merci.
Ce sont là autant de garanties que nous devons avoir pour nous rassurer qu'il n'y aura pas un défaut dans le cadre des contrats que nous signons.
Merci. Jean-Claude Poutou, vous allez aussi conclure. Hein. Le lancement de cet audit intervient dans un contexte international caractérisé par la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Ce contexte ne justifie-t-il pas cette démarche, Jean-Claude Poutou? Ça sera votre conclusion.
Ça, c'est une question ouverte. J'espère bien que non. J'espère que l'audit est non seulement voulu par l'avenant 5, mais surtout dans l'intérêt du Congo. Si notre gouvernement se risque pour un intérêt géopolitique quelconque, il fait fausse route. Ce qui est important aujourd'hui pour le peuple congolais, c'est le rééquilibrage de ces contrats, que la transparence de cet audit soit garantie, pour que demain, et nous, là, en tout cas le Congo n'est pas à vendre, donne rendez-vous à l'agence et au gouvernement dans 8 mois après l'audit pour faire le point. J'espère que les promesses faites aujourd'hui seront tenues, que l'audit sera public, que le renouvellement sera fait. Et je salue le troisième intervenant qui dit avant de négocier, on doit savoir ce qu'on apporte. Merci. Il est temps que le Congo mette en place une vraie stratégie nationale pour nos minéraux, pour que les minéraux profitent au peuple et non plus aux multinationales et aux politiciens corrompus.
Merci Patrick Lumumba, vous allez aussi conclure. Hein. Comment vous entrevoyez l'avenir de ces partenariats entre la Chine et la RDC?
Bon, écoutez, nous ne voudrions pas ramener ce débat au niveau du contexte géopolitique actuel. Parce que, figurez-vous que c'est depuis 2008.
Donc, au vu de ce qui se passe maintenant, et par rapport à ces enquêtes et tout ça, comment vous entrevoyez l'avenir de ces partenariats entre les deux pays?
Notre démarche est d'optimiser ces partenariats. Ce qui nous importe, c'est d'optimiser ces partenariats. Que la partie congolaise et la partie chinoise sachent effectivement qu'est-ce qui a été mis sur la table. Et que ce qui a été mis sur la table en ayant le valeur réelle, certifiée, que cela suive le rythme de la réalisation des infrastructures. J'aimerais quand même...
Votre mot de la fin.
Oui, mon mot de la fin. Je voudrais quand même remercier nos co-débatteurs et tous nos auditeurs qui vous avez suivis dans toutes les interventions, ont reconnu le mérite et le bien fondé de ces audits. J'aimerais également préciser la différence qu'il y a entre l'initiative portée par l'IGF et les audits qui sont menés aujourd'hui, c'est que l'IGF... Vous savez, le résultat de l'IGF ont été contestés par la partie chinoise. Parce qu'il faut que les parties puissent quand même convenir de termes. Et le résultat de ces audits ici, parce que ce sont des consultants indépendants, c'est qu'il n'y a pas de parti pris. Ce qui va faire en sorte que la transparence puisse être est beaucoup plus
accrue. Hein? Okay.
Et le projet, je voudrais dire encore une fois de plus, la société civile, les portes sont tellement ouvertes à la PCC. Venez, nous allons vous donner tous les éléments, parce que nous, nous inscrivons dans la transparence et nous croyons que l'équilibre sera fait et la partie congolaise et la partie chinoise se contenteront des résultats des audits.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Patrick Lumumba, Jean-Claude Poutou, Lems Kamoania. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci aussi à Benjamin Mudumbe et David Mugisa qui l'ont réalisé, à Diedoné Nyangasa qui était à la technique, et à Alain Ngoï qui a assuré les lives de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Capi.